Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Tournée du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Afrique, avant Addis Abeba en Éthiopie, la troisième et dernière étape de son premier périple africain. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu lundi à Luanda avec le président de l'Angola, João Lourenço. Mike Pompeo a salué la lutte anticorruption engagée par le leader angolais, notamment contre la famille de son prédécesseur à la tête de l'État, José Eduardo dos Santos. Les précisions de John Lyndon.
En 2 ans et demi au pouvoir, le président Lourenço a abattu un travail formidable pour faire de la corruption un fantôme du passé, a déclaré Mike Pompeo lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec le président angolais. João Lourenço augmente la transparence, il aide les institutions financières à faire le ménage et poursuit les coupables, a salué le secrétaire d'État américain en tournée en Afrique. Depuis qu'il est président, João Lourenço, membre du parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, a procédé à d'importants changements dans les institutions, les entreprises publiques et l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Plusieurs proches de son prédécesseur sont directement visés, notamment la fille de l'ex-président Isabel dos Santos, limogée de son poste de PDG du géant pétrolier public Sonangol et son demi-frère José Filomeno dos Santos, qui présidait le fonds souverain du pays. Le secrétaire d'État américain s'est également dit encouragé par les efforts du gouvernement angolais en vue de privatiser 195 entreprises publiques, une décision qui va grandement attirer des investissements privés.
Relations États-Unis-Afrique toujours, au moment où Washington examine une réduction de ses forces en Afrique, d'importantes manœuvres militaires annuelles sous commandement américain sont en cours depuis lundi dans le centre-ouest de la Mauritanie. Quelques 1600 soldats de pays africains et occidentaux y participent. Les détails avec Bagassi Koura.
L'exercice Flintlock est organisé depuis 2005 par AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Le but est de renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leur population, selon le site de l'ambassade des États-Unis en Mauritanie. Une cérémonie d'inauguration de l'édition 2020 a eu lieu lundi à Attar, dans le centre-ouest de la Mauritanie. Les exercices qui doivent s'achever le 28 février se dérouleront également à Nouakchott et Kaédi en Mauritanie, ainsi que dans la ville sénégalaise de Thiès. Parmi les 15 pays africains qui prennent part aux manœuvres figurent le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. En plus des États-Unis, une quinzaine de pays non africains, dont la France et le Japon, participent à l'exercice selon l'ambassade américaine à Nouakchott.
Agitation anglophone au Cameroun. L'ONU a réclamé aux autorités camerounaises ce mardi une enquête indépendante, impartiale et complète après le massacre dans lequel plus de 20 personnes ont été tuées dans la partie anglophone du pays. Nous pressons les autorités de s'assurer que l'enquête sera indépendante, impartiale et complète et que les responsables devront rendre des comptes, a déclaré le haut commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme dans un communiqué. La requête des Nations Unies porte sur une attaque le 14 février dans le quartier de Ngarbou, village de Ntumbo, dans le nord-ouest anglophone, au cours de laquelle 23 personnes, dont 15 enfants et une femme enceinte, auraient perdu la vie. Selon les informations recueillies par des employés de l'ONU sur le terrain, une quarantaine d'hommes armés comprenant des éléments des forces de défense et de sécurité seraient les responsables de cette tragédie. Pour sa part, l'armée camerounaise parle de malheureux accidents. Après des échanges de tirs entre forces de sécurité et rebelles sécessionnistes qui ont provoqué des incendies et ont touché plusieurs habitations. Cameroun toujours, des responsables de sécurité ont confirmé hier que le groupe djihadiste Boko Haram a tué 3 civils dans la nuit de samedi à dimanche dans une localité de l'extrême nord. Le point avec Irénée Armand Ongbo.
Le bilan de l'attaque a été confirmé par un officier de l'armée en poste dans la région. La première victime a été décapitée, la seconde tuée par balle, alors que la troisième est morte calcinée. Les assaillants ont incendié une centaine d'habitations, a détaillé l'officier de police. Selon lui, trois enfants sont portés disparus depuis l'attaque. Les djihadistes ont aussi pillé des commerces et volé des céréales. Né au Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est propagée en 2014 dans l'extrême nord du Cameroun, qui borde une partie du lac Tchad. Sa faction affiliée au groupe État islamique ISWAP est particulièrement active dans cette zone. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac. Outre ces attaques djihadistes dans le nord, l'armée et des groupes séparatistes s'affrontent dans les deux régions anglophones. Des exactions et des crimes contre des civils sont perpétrés par les deux camps, selon les rapports d'ONG internationales. Ce conflit a fait plus de 3000 morts et forcé environ 700 000 personnes à fuir leur domicile, selon des ONG.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 10 personnes ont été tuées lundi soir près de la frontière ougandaise dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi des sources locales, ce qui porte à près de 400 le nombre de personnes tuées dans la région depuis début novembre. Selon John Kambale, un responsable local, les victimes sont 8 civils plus un agent des services de renseignement et un soldat qui ont été tués lors de l'attaque contre le village de Manza Alo. L'armée attribue la tuerie au groupe rebelle des ADF, les forces démocratiques alliées qui ont intensifié leurs attaques dans le nord Kivu depuis début novembre. Épidémie de coronavirus, la pneumonie virale due au nouveau coronavirus qui frappe en ce moment la Chine affecte aussi les économies des pays qui entretiennent des liens commerciaux importants avec le géant économique de l'Extrême-Orient. Exemple, le Sénégal. Outre le ralentissement des importations, les enseignes chinoises et leurs collaborateurs sénégalais sont souvent désertés par des clients apeurés. Reportage de Sedina Abagay aux allées centenaires, appelées maintenant Chinatown de Dakar.
Aux allées centenaires de Dakar, l'affluence dans les magasins chinois et sur les rues adjacentes n'est pas aussi grande que d'habitude. Depuis l'apparition du coronavirus, une certaine peur s'est emparée des clients, mais également des vendeurs sénégalais qui travaillent avec les Chinois. Khadija Gay témoigne.
Des fois, on a peur quand on entend que les Chinois débarquent au Sénégal. C'est normal d'avoir peur, même les clients ont peur. C'est pourquoi ils mettent des masques pour venir acheter. Certains se contentent juste de rester devant la boutique pour marchander. Même si aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Sénégal, on n'est vraiment pas rassuré parce que si les frontières ne sont pas fermées, il est normal que ça suscite de l'inquiétude. D'autant plus qu'il y a des Chinois qui débarquent jusqu'à présent au Sénégal. Ça fait peur et on n'y peut rien parce qu'il n'y a même pas de dispositif de l'État.
Cette peur a fini par avoir une forte incidence sur le chiffre d'affaires des marchands de produits venant de la Chine. Adama Diaw côtoie les Chinois de Dakar depuis plusieurs années et il avoue que c'est la première fois qu'il observe un tel ralentissement des activités.
Le rythme du travail a considérablement baissé et bon nombre de nos marchandises en provenance de la Chine commencent à se raréfier. Il y a de quoi avoir peur pour notre travail parce que le marché chinois est mondial. Alors si leurs produits ne passent plus, ça se ressent. Les pays africains qui importent des produits chinois ont de grosses difficultés depuis l'apparition du coronavirus. Les grands pays comme les États-Unis et la France le ressentent certainement moins, alors que nous, nos pays, ne vivent que de produits importés, donc c'est très difficile et dans tous les domaines.
Malgré cette baisse du chiffre d'affaires et la présence dans les esprits du coronavirus, certains vendeurs comme Khadim Diagne gardent espoir et estiment qu'il ne sert à rien de stigmatiser les Chinois vivant au Sénégal.
On n'a pas peur parce qu'au moment de l'épidémie, nos collaborateurs n'étaient pas en Chine, mais il est quand même important de prendre toutes les précautions et filtrer les entrées dans le pays. Si cela se passe comme ça, on n'a aucune raison d'avoir peur. Certes, je n'ai pas vu de nouveaux entrants chinois dans le pays, mais les rumeurs persistent et cela peut amener la panique, même si on est habitué à les côtoyer quotidiennement. Mais globalement, je pense pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur parce qu'il n'y a pas encore de cas confirmés au Sénégal.
Au-delà des interrogations et polémiques que le coronavirus a soulevées, avec notamment la question du rapatriement des 13 étudiants sénégalais de Wuhan, force est de constater que ce virus qui fait des ravages en Chine n'épargne pas les commerces de produits chinois dans la capitale sénégalaise. À Dakar, Sedina Abagui pour VOA Afrique.
Course à la présidence aux États-Unis pour terminer, les primaires du parti d'opposition démocrate en vue de désigner l'adversaire du président républicain Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain vont se poursuivre samedi dans le Nevada, un état de l'ouest du pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.